Les directives sont simples, c'est obliger en fait les pays occidentaux, les pays du Golfe, à arrêter de soutenir ceux qu'ils qualifient de terroristes, c'est-à-dire les rebelles syriens. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que se tient également la conférence de Genève, puisqu'elle fait suite à l'accord entre Kerry et Lavrov en septembre dernier, qui consiste à échanger l'arsenal chimique syrien contre le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad.
Et pourtant, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, annonçait hier un gouvernement d'ouverture entre le clan Assad, mais sans Assad, et l'opposition modérée.
Laurent Fabius, comme les diplomates français depuis le début de la crise syrienne, prennent leurs désirs pour des réalités. Il a ce discours pour notre opinion publique, parce qu'il ne peut pas changer de discours quand même à 180 degrés du jour au lendemain. Mais il sait très bien que les États-Unis et les Russes ont scellé cet accord et que ce n'est pas la France qui va changer quelque chose. Parce que sur le terrain, de toute façon, les forces de Bachar el-Assad ont pris l'avantage depuis, je dirais, l'hiver 2012-2013. On s'en est aperçu réellement avec la reprise de la ville de Qusayr. Mais partout en Syrie, vous avez une avancée des forces fidèles à Bachar el-Assad. Les rebelles sont divisés, de plus en plus radicalisés. Certes, on a des annonces comme quoi ils constituent des alliances militaires, mais islamistes. Mais ça, ce ne sont que des propos, parce que sur le terrain, ils restent divisés. Et le fait que les islamistes soient dominants, évidemment, cela les prive du soutien international qu'ils pourraient avoir s'ils étaient plus modérés.
Et alors justement, quand on parle de ces rebelles syriens, de qui parle-t-on exactement en fait ?
Disons qu'il y a une opposition politique, civile, constituée par la coalition nationale syrienne, qui est essentiellement composée par des exilés syriens ou quelques intellectuels qui ont fui la Syrie récemment, mais qui, fondamentalement, n'a aucune base sociale en Syrie. Elle n'a surtout aucun lien avec les rebelles, c'est-à-dire les combattants sur le terrain, qui ne la reconnaissaient guère, qui ne la reconnaissent plus du tout, qui la rejettent. On a vu, par exemple, le plus modéré des rebelles, c'est-à-dire le chef de l'armée syrienne libre, lui a dit qu'il ne participerait pas à Genève et que de toute façon, quelles que soient les conclusions de la conférence de Genève, eh bien, il continuerait le combat. Il sait très bien, comme je vous l'ai dit, que Genève va servir en fait à entériner le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad et demander aux bailleurs de fonds de la rébellion d'arrêter de les soutenir.
Vous dites que Genève 2 va servir aussi à demander à l'Arabie Saoudite, à la Turquie, aux pays du Golfe de donner de l'argent aux rebelles, mais comment est-ce que les Occidentaux vont s'y prendre pour les convaincre ?
Ça, effectivement, c'est un problème. Les États-Unis, aujourd'hui, ont beaucoup moins de poids sur le régime saoudien que dans le passé. Il faut dire aussi que le régime saoudien, c'est une gérontocratie paralysée par ses querelles de succession. Et donc, on a plusieurs clans en Arabie Saoudite, notamment le clan du prince Bandar, qui utilisent le terrain syrien pour s'imposer au sein de l'appareil saoudien. Alors, évidemment, ça complique la tâche des États-Unis, qui, s'il y avait un pouvoir centralisé en Arabie Saoudite, pourrait imposer tout de même à l'Arabie de cesser de soutenir les rebelles, alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs clans qui ont leur propre agenda. La Turquie, aujourd'hui, commence à avoir des problèmes avec les rebelles syriens, puisque les djihadistes prennent le contrôle de la frontière syro-turque. Donc Erdogan, qui est en proie à une forte opposition à l'intérieur de son pays sur la politique syrienne, justement, il est soutenu par moins de 20% de la population turque sur l'affaire syrienne, et il risque d'être tenté, même sans injonction américaine, de fermer sa frontière aux rebelles syriens. Donc, la crise syrienne prend des proportions dangereuses pour la région, c'est la stabilité du Liban, la stabilité de la Jordanie qui est menacée. Si la Jordanie est déstabilisée, c'est un problème pour Israël, et ça fait partie, je dirais, des piliers de la politique américaine au Moyen-Orient, c'est-à-dire la protection des marchés du Golfe, mais également la sécurité d'Israël. Donc dans ce contexte, les acteurs internationaux et certains acteurs régionaux ont intérêt à une stabilisation du régime syrien, c'est-à-dire finalement le maintien au pouvoir d'Assad, puisque il a montré qu'il était capable de résister, et sans sa présence à la tête de la Syrie, il est clair que son système pourrait s'écrouler. Donc les déclarations de Fabius comme quoi il ne faut pas qu'il reste à la tête du pays, c'est un vœu pieux, mais il faut être réaliste, ça n'a pas de chance d'aboutir.
Pour revenir au point de vue des Occidentaux sur le conflit syrien et sur Genève 2, est-ce qu'il y a quand même une possibilité que Assad accepte d'avoir un gouvernement ouvert à l'opposition modérée ?
Tout l'art de Genève 2, ça va être justement de se sortir pour les Occidentaux de cette impasse sans perdre la face. Alors les États-Unis s'en sont bien sortis grâce à Poutine en leur suggérant d'échanger les armes chimiques contre le maintien au pouvoir d'Assad. Et là, il faut évidemment que la France, par exemple, ne perde pas trop la face non plus, ainsi que les pays du Golfe. Donc effectivement, pourquoi pas un gouvernement qu'on appellera de transition avec des ministres d'ouverture. On sait très bien, de toute façon, en Syrie, que le gouvernement, il a absolument aucune importance. Celui qui a le pouvoir, c'est le président et l'appareil sécuritaire, les ministres étant de simples fonctionnaires interchangeables. Donc effectivement, on peut avoir cette possibilité. Mais surtout à Genève 2, ce qui va se jouer, c'est le sort des réfugiés syriens. Vous avez à peu près 3 millions de personnes à l'étranger. Avec l'hiver qui s'approche, il y aura à mon avis une nouvelle vague de réfugiés, surtout si l'armée syrienne avance dans le nord et dans la région du Kalamoun. Et toute la question de Genève 2, ça va être aussi de demander à Bachar el-Assad de ne pas trop réprimer. Parce que ça veut dire qu'on a 4 à 5 millions de Syriens qui potentiellement, c'est-à-dire un quart de la population syrienne, qui peuvent être durablement expulsés du pays et faire souche dans les pays voisins, mais également venir vers l'Europe. Et c'est ce qui inquiète ça aussi énormément les Occidentaux.